Donc Thomas appelé Didyme. Moi j'avais un copain qui s'appelait Dudule. L'un des douze n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Et il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. Il est exigeant, hein? 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main, mets-la dans mon côté, ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voilà, c'est extrêmement important de se rendre compte que cet homme a demandé de la part de Jésus une intervention pour affermir sa foi. Et ce n'est pas la première fois, vous avez vu le prêtre de Jaïrus, ma fille se meurt, viens au secours de ma foi, augmente ma foi. Et puis il lui confie que sa fille est en train de mourir. Donc l'humilité de dire ma foi en est là, au Seigneur. Directement au Seigneur, qui entend tout, qui voit tout. Et vous voyez bien que Jésus a vu et entendu, et quand il arrive, il intervient. C'est quelque chose que je voudrais que vous compreniez bien, qui est important, parce que Jésus ressuscité, Jésus vivant, a cette capacité d'intervenir selon ce que je lui demande humblement, en vérité. Il sait très bien qu'on n'est pas des Rambo de la foi, il sait très bien qu'on n'est pas le géant Atlas qui soulève les montagnes. On ne fait pas partie de la mythologie quand on est chrétien. On fait partie d'une triste réalité, nous sommes des gens très humbles, très faibles, qui avons besoin d'être fortifiés par le Seigneur. Voilà. Ça c'est clairement quelque chose que je voudrais que vous compreniez aujourd'hui. Je vais donner quelques faits pour vous éclairer. Avant cela, de donner des cas concrets, on va aller dans Matthieu chapitre 5. Vous allez voir que Satan lui propose pour fortifier les hommes des choses bizarres. Ce n'est pas tout à fait la même chose du côté de Jésus et du côté de Dieu, mais du Dieu de Jésus. Pas du Dieu d'autres personnes qui se réclament de Dieu, et c'est pas le vrai Dieu, c'est Satan en fait. Ça paraît peut-être pour des incroyants très intolérant ce que je viens de dire, mais ce qu'il y a, c'est Satan peut se déguiser, se faire passer pour Dieu, et il y a des gens qui adhèrent au concept de Dieu et à des manifestations qui ne sont pas du vrai Dieu de la Bible. Du vrai Dieu de paix, de miséricorde, de bienveillance. Donc dans Matthieu chapitre 4, j'aurais peut-être dit 5, mais il faudra se méfier aujourd'hui, j'étais vraiment sur les jantes tout à l'heure, j'y suis encore à moitié maintenant. Matthieu chapitre 4, quand Jésus est emmené par l'Esprit, donc lui-même est conduit dans la Trinité, dans le désert, pour être tenté par le diable, vous imaginez. Il va au rendez-vous avec le diable. Hein? Et pas de témoin humain en plus. Alors je voudrais vous dire ceci, c'est que parfois nous avons des rendez-vous où le diable nous attend et il n'y a personne, pour nous, humainement parlant, pour nous aider. Personne. On se trouve face à face à des difficultés énormes et on va devoir se débattre. Et ça, il faut bien savoir ceci. Il faut dire au Seigneur, je suis trop faible. Seigneur, viens vite dans ma vie, fortifie-moi, apprends-moi à me battre, apprends-moi à me rendre fort. S'il te plaît, je ne suis pas de taille à lui tenir, tête. C'est extrêmement important, les amis, d'avoir cette attitude-là. Si vous voulez qu'un jour ça change, que vous voyez la puissance de Dieu. Autrement, vous ne verrez que votre échec, votre misère, et vous aurez une... Vous essayerez d'être chrétien, mais en pataugeant toujours dans la boue du péché, ce n'est pas marrant. au bout des échecs. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. C'est en parallèle à Moïse dans le mont Sinaï. Hein, c'est réellement le nouveau leader du nouveau peuple de Dieu, de la nouvelle alliance, qui fait aussi 40 jours pour être prêt pour sa mission. Le tentateur s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Donc, miracle économique dans ce monde. C'est ce qu'on demande à tous ceux pour qui on vote. De l'emploi, etc., etc. De la sécurité. Et de l'argent dans les caisses de sécurité sociale. De l'argent pour les pensions. De l'argent pour les écoles. Pour l'avenir de nos enfants. Et regardez bien, Satan connaît comment instrumentaliser la peur et les intérêts humains. Comme Jésus est homme, il va lui proposer d'être un super-homme, c'est-à-dire de quelqu'un qui résout tous les problèmes qui sont sur la terre. Vous savez très bien que si demain, ou à ce jour-là, Jésus avait obtenu de Satan que toutes les pierres devenaient des pains, quelques jours plus tard, par l'égoïsme et par le péché, des hommes s'accaparaient ces pains-là et en privaient des autres ou les vendaient à prix d'or. Hein, ça, c'est clair. Une de mes sœurs a travaillé dans les montagnes de l'Atlas au Maroc. Quand les produits de l'UNICEF arrivaient pour les enfants, les caïds, les chefs des villages prenaient, ils donnaient à leur famille, ils vendaient aux autres, alors que c'était parti gratuitement d'ici. Et vous savez que les ingénieurs agronomes de tout à fait athées ont calculé qu'on pourrait être 40 milliards sur la Terre et manger 3 fois par jour. Et donc, si c'est pas comme ça, c'est parce que c'est tout simplement voulu par le péché de l'homme et de Satan. Donc, c'est une proposition fallacieuse, c'est un piège. C'est complètement un piège. Pour orchestrer la justice sur la terre, ce n'est pas de miracles pareils qui vont régler le problème. Parce que le péché est toujours là. C'est la même chose dans les couples. Pour que des couples marchent, il faut que le péché soit enterré. Le péché sont enterrés. Vous savez très bien que depuis le péché d'Adam et Ève, le mort humain est dénaturé. Il tourne parfois à l'escroquerie, ou en tout cas à la bataille, à la dispute, etc. Depuis le péché d'Adam et Ève, une des plus belles choses que Dieu avait faites, l'amour humain, est dévié. Il faut donc régler le problème du péché pour que le mariage réussisse. C'est la même chose dans la justice économique du monde. Donc voilà un piège suprême de Satan pour, en prenant bien sûr Jésus pour un idiot, parce que c'est sûr que Jésus ne sait pas que celui qui est en face de lui est celui-là qui a proposé le péché à Adam et Ève. C'est lui le fauteur de troubles, l'instigateur de la misère humaine et du péché. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc nous voyons bien que ce qui était là avant le péché, avant que l'homme et la femme ne prennent les fruits de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire de décider eux-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal, de légiférer la morale, l'éthique, la spiritualité eux-mêmes, c'était Dieu qui légiférait, qui donnait la piste, ça c'est bien, ça c'est mal. Et on le voit très bien quand ils ont eu le plaisir de rompre avec Dieu et de dire on va définir nous-mêmes la science du bien et du mal. Juste après, ils disputent l'homme et la femme. Ils s'accusent l'un et l'autre, et puis ils accusent le serpent. Et puis après, Ève remercie Dieu de lui avoir donné un enfant. Mon enfant, ce n'est pas notre enfant. Et puis ensuite, il y a un des enfants qui tue l'autre enfant. Suis-je le gardien de mon frère? Ça y est, rebelote, tout est parti comme on voit aujourd'hui. Et ça a été vite, hein? Ça a été très vite. Vous voyez le péché, le poison qui amène la mort, hein? Et donc, en face de Jésus, il y a l'auteur suprême de ce mal qui est sur la terre et qui veut se faire paraître pour généreux. Et un ouvrier du bien. Il est menteur dès le début, dit Jésus dans Jean chapitre 8 aux pharisiens. Alors, vous voyez ici, la parole qui sort de la bouche de Dieu est la seule qui est bonne, pas celle de Satan. Pan. Vous voyez avec quelle non-violence Jésus parle à Satan ? La vraie parole sort de la bouche de Dieu, pas de ta bouche. C'est ça que ça veut dire. Il le remet à sa place, mais il ne va pas se décourager comme ça. Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es le fils de Dieu, de nouveau, hein, pour le flatter, pour le faire tomber dans l'orgueil, jette-toi en bas, car il est écrit, donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte point d'une pierre. C'est le psaume 91 qu'on va aller lire après. Donc on voit ici que Jésus se voit tenté de faire le héros, comme on fait dans tous les Jeux olympiques, au football, au basket, tout. Et regardez le tas de fric qu'on donne aux joueurs de football, de basket, et tout, des héros. Et je voyais encore dans la gazette au matin un des copains de Timothée, notre fils qui a 24 ans, qui provient de Chenoa et qui est depuis 6 mois à Bruxelles. On va le suivre tout le temps avec la caméra, avec les journaux, parce que c'est un grand champion qui court bien, et puis provient de la CD, etc. Ce n'est pas le problème de ce jeune homme, c'est le problème du monde, de ce qu'il va faire de ce jeune homme. Le problème de la publicité, le problème de l'aura qu'on va mettre autour de cet homme. On peut courir et faire du sport. Mais pour en faire un dieu, et pour en faire quelqu'un d'exceptionnel, qui n'est jamais que comme les autres, qui ne sera jamais que comme les autres. Toutes les stars de télévision, de radio, de films, les films, ce sont des gens comme les autres. On les a tellement drogués, ils vont tous en dépression. Il y a combien de suicides? Et combien de misère chez ces gens-là? Donc, l'illusion d'être un surhomme, Übermensch, comme disait dans Mein Kampf Hitler, Übermensch, comme Darwin, la sélection des plus forts, l'élimination des plus faibles, cette idée-là d'être exceptionnel est encore un plan dans les plans du diable. Vous savez très bien que Jésus a dit dans Matthieu 22 que personne ne se fasse appeler parmi vous père, maître, directeur, regardez, mère supérieure, le Saint-Père, etc., etc., le directeur de conscience. Déjà, Dieu le savait à l'avance. Mais Dieu n'aime pas ce que nous, on aime. Et il fallait qu'il le dise, parce qu'il est clair avec nous. Et pratiquement, que vous êtes tous frères. Un seul est votre maître, votre directeur, Christ. Donc, vous voyez ici que Satan propose à Jésus de faire le kamikaze en prenant une partie de la Bible, juste deux versets, du psaume 91, on va y aller, 91, et en ne disant pas les autres, hein, surtout pas les autres. Alors, l'art de Satan, en plus de son orgueil et de son désir de perdre l'homme, c'est d'utiliser parfois la parole de Dieu de travers, d'aller prendre dans la parole de Dieu quelque chose pour ruiner l'homme. Donc, vous voyez, à la réponse de Jésus au verset 4, il va chercher une parole dans la parole de Dieu. Ah ben, je vais faire comme tu me dis, hein. Je vais faire comme tu le dis, mon cher Jésus. Je vais aller prendre une parole qui sort de la bouche de Dieu. Le problème, c'est qu'elle passe par un intermédiaire, c'est lui. Et l'intermédiaire est mauvais. Alors, méfiez-vous des intermédiaires. Les intermédiaires peuvent déformer la parole de Dieu. Et il faut... Et c'est pour ça qu'on voyait les chrétiens de Béret, dans les Actes des Apôtres, qui allaient examiner les Écritures pour vérifier si ce qu'on leur racontait était juste. Quand j'étais au Bénin, j'ai insisté dans toutes les églises où j'étais pour qu'il y ait des équipes de bibliques dans tous les quartiers, parce qu'ils sont 2-3 000 dans les églises, 5 000, 800, ou, qu'ils aient des groupes bibliques et qu'il y en ait au moins un qui sache lire. Et quand on lit, c'est quand est-ce qu'on essaie de comprendre. Qu'on essaie de comprendre, parce que il y a des grands messieurs avec, qui veulent paraître le grand pasteur ou le super prêtre et qui profitent du manque d'instruction des gens, comme on a fait souvent ici, pour les conduire où ? Mais pour prendre dans leur poche le fric qu'ils ont, et parfois leurs femmes, etc. Et avoir du pouvoir. Et les conduire où ? Est-ce qu'ils les conduisent au paradis ou en enfer ? Alors, vous voyez, Satan utilise une partie de la parole de Dieu, on va voir comment il s'y prend tout à l'heure, et pour amener des gens à se perdre. Et il essaye avec Jésus, ça ne marchera pas. Verset 7, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc c'est dans Deutéronome, cette phrase. Et pratiquement, Jésus ici définit qu'il est Dieu. Il affirme qu'il est Dieu. et qui ne peut pas être tenté par Satan. Ça, c'est caractéristique même de Jésus. Il n'est pas tenté par Satan. Donc, si moi, je suis tenté, j'ai intérêt à vivre avec Jésus, qui n'est pas tenté par Satan. Si je ne sais pas faire des maths, et que je dois réussir mes études, ben, je dois aller voir quelqu'un qui connaît bien les maths quand même. Si je dois faire de la mécanique, j'ai quelque chose à faire en mécanique, je n'y connais rien du tout, ben, je vais trouver quelqu'un qui connaît bien la mécanique, pour pouvoir réussir mon examen, enfin, pour terminer l'école, mon examen de mécanique. Donc, si je veux résister à Satan et au péché, il faut que j'aille trouver quelqu'un, celui qui ne résiste à Satan. Ce n'était pas Moïse, figurez-vous. Dans l'Ancien Testament, tous les prophètes, tous les patriarches ont péché. C'est dans la Nouvelle Alliance, c'est Jésus qui est sans péché. Un nouveau leader du nouveau peuple est sans péché. Il résiste à Satan. Mais dans le psaume qui est choisi là par Satan, nous allons voir qu'il y a bien plus encore à tirer comme leçon. La troisième tentation, c'est le diable le transporta sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il est probable que c'est encore la montagne de Sion, à Jérusalem, parce que c'est l'obsession même de Satan, vous voyez ça dans Ézéchiel 28 et dans Ésaïe 14. Il était placé comme archange sur la montagne de l'Assemblée, donc l'Assemblée finale, la royauté de Christ, pour garder ce lieu-là pour le Christ. Et figurez-vous, il a voulu être au-dessus de Dieu. Et il a été jeté dans la poussière par Dieu. Et donc, dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, nous voyons qu'il a été jeté. Et lui, il veut grimper au-dessus. Il veut remonter sur la montagne. C'est pour ça que un jour, peut-être dans pas longtemps, et quelqu'un va se présenter à Jérusalem pour être le roi, le maître de la terre, le maître de la paix, orchestrer les nations, et c'est ce qu'on appelle l'Antichrist. C'est bien sûr Satan. Mais ce qu'il y a ici, vous le voyez, il va demander à Jésus de se prosterner devant lui, et il va lui promettre tous les royaumes du monde et leur gloire. La politique, la réussite politique. Pourquoi Mitterrand, avant de mourir, était parti aux pyramides en Égypte? Pourquoi il a fait à Paris une pyramide en verre? Parce qu'il était dans la franc-maçonnerie, dans les hauts plus degrés d'initiation. Et dans tout ce qui est, médium. Vous savez, les chefs politiques, les gens arrivés à un certain niveau sont obsédés d'ordre dégringolé. Il leur faut des pouvoirs en plus pour être sûrs de berner les gens, de monter au-dessus, et de faire taire les opposants. Et pour ça, il faut l'aide de Satan. Mais tous, ils sont tombés l'un après l'autre. Regardez le livre de Daniel, avec la grande statue en or, Babylone, les épaules ici en argent, c'est les Mèdes et les Perses, donc l'Iran et l'Afghanistan. Le torse en bronze, c'est les Grecs, Alexandre le Grand, les jambes en fer, c'est Rome, l'empire de fer, rempli d'iniquité, les pieds d'argile faits de bronze et d'argile, les pieds, le dernier empire, à la même place que l'empire romain, à l'entour de la Méditerranée, qui est né, il est créé, le 30 novembre 1995, la Confédération méditerrano-européenne a été signée sur l'île de Crète, 30 novembre 1995, elle est signée. Le dernier empire de Daniel existe. Il est de courte durée. Les peuples qui le composent sont divergents, d'intérêts opposés, etc. C'est le cas. Il est signé. La parole de Dieu est réalisée. Et il est de courte durée. Il ne durera pas 9 siècles comme l'empire romain. Et bien pratiquement, tous ces empires tombent. Et le dernier qui doit tomber, donc celui dans lequel on est, c'est un rocher qui n'est pas fait de main d'homme et qui descend de la montagne. C'est Dieu, c'est qui envoie Christ. Alors ici, bien sûr, Satan, lui, il s'en fout de tout ça. Il a entendu la parole de Dieu, il connaît les plans de Dieu. Il veut être celui-là qui est le roi du monde. Et il propose à Jésus, ben, je vais te faire des cadeaux tellement, tu te mets en dessous de moi, quoi. Tu seras mon sous-chef, hein, mon sous-roi. Voilà les propositions de Satan. Allons voir. Il faut bien se rendre compte que Jésus ressuscité, mort à la croix et ressuscité, est opposé à tous ces pièges de Satan. Opposé, c'est l'ennemi le plus farouche de tous les pièges de Satan. Et c'est le seul à pouvoir tenir tête, en plus. C'est le seul qu'il a vaincu à la croix. Alors, regardons dans les psaumes, psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc voilà pour nous, chers amis, une invitation spirituelle de premier niveau. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. L'oiseleur, c'est Satan. Hein? Il te couvrira de ses plumes, tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Le mot refuge, sous les ailes, quand vous avez Matthieu chapitre 5, heureux les pauvres, dans le texte en grec, c'est heureux ceux qui, en esprit, se réfugient humblement dans le Saint-Esprit. Se réfugient dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire dans l'Esprit de Christ. Dans la puissance même de Christ. Dans le désert, Jésus n'avait qu'une arme redoutable contre Satan, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité, l'Esprit de pureté. L'esprit de sainteté, l'esprit d'humilité, l'esprit d'amour et de bonté. Et ce qu'il a fait, il a résisté à Satan. Et quand je me réfugie, je prends comme forteresse le Saint-Esprit de Christ, je suis dans un vrai abri. La béatitude, la première béatitude dans Matthieu chapitre 5, c'est celle-là. Heureux, les pauvres en esprit, donc dans le Saint-Esprit, qui se réfugie en lui. Alors qu'ils seront enfants de Dieu, bien sûr. Verset 5, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ben, c'est ça, hein, parce que toute la situation de notre monde est très inquiétante. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui marche en plein midi. Vous prenez, dans chapitre 6 de l'Apocalypse, le cheval blanc. Le cheval blanc, c'est l'esprit d'impérialisme dans le monde, qui règne dans le monde. La puissance, l'esprit de puissance. Et vous pouvez voir, c'est incroyable, c'est ça qui conduit l'histoire. L'esprit de puissance. Mais il augmente. Il y a actuellement, au-dessus de tous les États, États européens, États américains, des gens qui ont une puissance telle que nos États n'ont plus rien à dire. Et nos hommes politiques n'ont plus qu'à s'incliner. Nos économistes n'ont plus qu'à s'incliner. C'est eux qui mènent la barque. Ils sont arrivés. Le cheval blanc. Et il y a le cheval rouge dans l'Apocalypse, c'est le carnage, le sang. L'utilisation du sang, de la guerre, des meurtres, pour arriver à l'impérialisme, au pouvoir. Et le troisième, c'est le cheval noir, c'est la famine. Un effa de blé pour une journée de travail, pour un denier. Alors qu'à l'époque où l'Apocalypse est écrite, on avait 12 effas de blé, 12 mesures de blé pour une journée de salaire. Donc on va vers une famine mondiale qui est déjà chez beaucoup. Et quand je vous disais que Satan propose de changer toutes les pierres en pain, ça ne résout pas la famine. Il faut déjà mettre Satan dehors de la terre et déjà le péché. Alors on peut résoudre le problème de la famine. Parce que la famine n'est pas un phénomène économique, elle est un phénomène satanique. C'est ça qu'il faut savoir, diabolique. Et l'injustice économique est un phénomène satanique. Ce n'est pas seulement un phénomène humain et des mécanismes économiques. Et donc la peste, la contagion qui marche en plein jour, en plein midi, tout cela, c'est évidemment cela. Que 1000 hommes, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Donc nous voyons ici que réellement, quelqu'un peut résister, et ce n'est pas la majorité, peut résister à ce fléau. Pensez à Jésus. Pensez à Jésus. Jésus ressuscité. De tes yeux seulement tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants. Tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Alors Jésus, puisqu'on va en parler juste après, Jésus à la croix, ce n'est pas un fléau alors. Mais non. Pour Jésus, ce n'est pas un fléau, la croix. Mais non, pas du tout. C'est un sacrifice pour nous sauver. C'est pas un fléau. Le fléau, c'est des gens qui meurent dans les guerres, qui n'ont rien, qui n'ont plus rien de solution. Pour le Fils de l'homme, il va au sacrifice volontairement pour nous sauver. Et il porte nos fléaux. Mais sa mort n'est pas un fléau. Sa mort n'est pas un échec. Sa mort n'est pas un malheur, ce n'est pas l'heure mauvaise. C'est une heure désirée. Quand il dit dans Noce de Cana à Marie, « Mon heure n'est pas encore venue », il savait que son heure était fixée. À un moment donné, pendant le repas, il dit à Judas, « Tu peux prendre et va faire ce que tu dois faire. Mon heure est venue. » Jésus n'est pas idiot. Il ne veut pas la catastrophe. Il est toujours Dieu, même à la croix, même bafoué, même frappé par la cohorte italienne, la cohorte romaine. Et qu'est-ce qui se passe? Il porte nos fléaux, Ésaïe chapitre 53. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera ta tente. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc vous voyez ici, ça s'est réalisé, quand Jésus était dans le tombeau, les anges ont ouvert la pierre, ont ouvert le rocher. Et Jésus est sorti libre, ressuscité. Les anges étaient là pour le garder. Et ça s'est réalisé. Mais ce qu'il y a, c'est que Satan utilise ce verset-là pour faire un Jésus du kamikaze, du parachutisme sans parachute. Hein? Alors, d'ailleurs, de plus en plus, on s'approche de ça. Hein. Vos envoyés se mettent au-dessus de la montagne, ils ont juste deux petites ailes, là, entre les pieds, là. On essaye tout, hein. On essaye tout. Parce qu'on veut faire ce que Satan propose. Des exploits pour passer à la télévision. Alors, on a une caméra là, on en a une derrière, etc. Parce que nous, on veut voir la télévision. Je n'ai pas besoin de voir ça. Ça se rapproche de ce que Satan propose toujours à l'homme. Être un dieu, alors qu'il n'est qu'un homme. Verset 13. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lion sous le dragon. Donc, Dieu promet à Christ de vaincre Satan. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. La résurrection, la glorification de Jésus. Donc clairement, Satan n'a pris que deux versets pour essayer d'égarer dans la parole de Dieu. Il a pris quelque chose pour égarer Jésus. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Satan ne prendrait pas des versets bibliques en utilisant des anges de lumière, des faux serviteurs, pour égarer les gens? Évidemment que si. On voit dans la deuxième aux Corinthiens chapitre 11 que Paul le dit. Faites attention, il y en a qui sont déguisés. C'est des anges de lumière. Donc c'est, dès le départ du christianisme, ça existait. Parce que dès le départ de la vie publique de Jésus, ça a existé. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la victoire de Christ à la croix, qui était programmée, qui était annoncée, dérangeait joliment Satan. Parce que Satan savait que c'était son échec. Son échec était programmé. Genèse chapitre 3, verset 15. Comme l'échec de l'Antéchrist est programmé, comme l'enlèvement de l'Église est programmé, que les gens qui sont réellement à Christ échapperont à l'Antéchrist. Genèse 3, 15. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Donc il parle au serpent. Et sa postérité, celle-ci, t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. C'est le Christ, bien sûr. Le Christ, Jésus. La postérité qui descend d'Israël. Voilà, donc le psaume 91 est relié à ça. Et ce qui dérange Satan, c'est de se dire, ben, si j'arrive à convaincre Jésus de ne pas le réaliser, c'est moi le gagnant. C'est moi le gagnant. Et il mise sur le mensonge pour ça, sur la séduction. Dans nos vies, ce qui compte, les amis, c'est de savoir que le Christ est tout-puissant. Il a déjoué Satan. Il est le seul qui peut nous aider à déjouer la puissance de notre péché et déjouer la puissance de Satan. Parce que Satan vient souvent à notre porte, les amis. Vous savez qu'Abel était tué. Il est resté Caïn. Il y a 7. Donc nous descendons soit de Caïn, soit de 7. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Caïn? Attention, le péché couche à ta porte. Donc nous, continuellement, nous descendons de Caïn ou de 7, on a toujours à notre disposition le péché. J'ouvre la porte, moi chez moi ici, au matin, Bénédicte rentre ou quelqu'un d'autre, les chats rentrent. Ils sont tous à la porte. Quand c'est moi, ils n'osent pas rentrer. Paf, il y a toujours un pour les faire rentrer. Alors pratiquement, ce qui se passe, ça veut dire que le péché rentre facilement dans nos vies. Il y a toujours bien une occasion ou un complice ou quelqu'un pour l'amener. Et ce qu'il faut faire dans notre expérience de la vie spirituelle, c'est que le Seigneur Jésus garde notre porte. La porte de notre âme, la porte de nos pensées, la porte de nos convoitises. Alors, j'ai choisi de donner un peu un petit témoignage. J'ai déjà dit que j'avais rencontré le Seigneur par une dame pauvre, Marie Allégée de Blé, mais j'ai déjà rencontré à 8 ans aussi par un pauvre à qui j'avais donné une belle pièce d'argent, le Seigneur. Je me rappelle du regard, de l'âme comblée de cet homme, parce que j'avais donné ma pièce de 100 francs avec les 4 droits de Belgique, alors que les autres donnaient une petite pièce de 1 centime. Et j'avais vu une lumière intense dans le regard de cet homme en disant, mais ce gosse, il m'aime. Et j'avais compris que le Seigneur était amour à 8 ans. Bon, quand j'étais assez déprimé, découragé dans l'adolescence et fort tenté par l'impureté, quelqu'un m'a donné un Nouveau Testament. Je l'ai lu en cachette parce que mes parents n'aimaient pas ça. Et j'avais pioché au champ, haut de la tour, les betteraves, les patates. Donc je l'ai lu là. En 2 mois, tout était lu, tout le Nouveau Testament. Et puis je le cachais chez une personne aveugle. Et pratiquement, une seule phrase m'est restée. « Celui qui me donne sa vie la sauvera, celui qui veut la garder pour lui-même la perdra. » Ça, de ce jour-là, mon côté dépressif, mon côté pataugeage intérieur, là, où on n'est pas bien parce que telle copine vous a plaqué, ou tel copain a déménagé, on ne voit plus, etc. Tout ce qui est basé sur les remous marécageux des sentiments. Paf, fini. Une guérison. J'avais la pêche. Je l'ai compris après, j'avais la pêche, le Seigneur m'avait guéri. J'avais accepté cette parole et je démarrais dans un chemin qui, bien sûr, je n'en connaissais pas beaucoup, hein, mais j'acceptais l'autorité de cette parole du fond de mon cœur. Quand, après avoir rencontré Marie-Allégée sur les chemins et puis avoir trouvé le sentiment de mon péché, avoir découvert que je ne l'aimais pas, que le Seigneur me montrait mon horreur, et que dans les 3 mois, j'ai vu que je devais donner ma vie à Jésus, je l'ai fait, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas réussir ma vie sans Jésus. Parce que j'étais un égoïste né, tout était centré sur moi. Même en me croyant bon, c'était centré sur moi. C'était un faux chemin. Et la sainteté de Jésus m'était apparue, la grandeur de Jésus m'était apparue telle que je ne pouvais pas me débarrasser de ce Fils de Dieu, de sa sainteté, de sa présence. Je ne pouvais plus m'en débarrasser. J'avais le sentiment que chaque fois, il était en face de moi. Donc j'étais appelé, il m'a fallu répondre. Quand j'ai répondu, bagarre, infamie, puis après, ne sachant pas où, comment se donner à Christ, je ne connaissais que l'Église catholique, j'ai choisi après d'aller au séminaire pour être prêtre, bien que beaucoup de choses dans l'Église catholique, je n'aimais pas, mais j'aimais le Christ. Et pratiquement, il m'est arrivé ceci, c'est que quand on vous propose le célibat, plus quelque chose est interdit, plus ça vous brûle. Prenez-le bien. Plus ça vous brûle. Paul, dans Romains, au chapitre 7, le dit. Plus la loi vint sur 20, plus le péché reprit vigueur. Plus c'est interdit, c'est comme avec les gosses. Ne fais pas ci, fais pas ça, courez toujours. Allez vous cacher, regardez, vous allez vraiment le faire. Ou vous voulez que quelqu'un il vous raconte vos confidences, dites-lui en le quittant, surtout ne va le dire à personne. Et vous saurez que toute la région saura. Alors, C'est la même chose avec l'interdit. Et ce qui s'est passé, c'est que, ah ben il faut être célibataire pour être prêtre. Quoique, 15 jours avant l'ordination, on nous fait signer une feuille dans une pièce fermée. On était là une douzaine à être ordonné. Comme vous savez, Jésus n'a pas demandé à ce qu'on soit célibataire pour le servir, etc. Vous le connaissez dans la Bible. Veuillez signer le papier comme Paul. Il se lavait les mains parce qu'il savait très bien qu'après, la plupart allaient se planter. 15 jours avant l'ordination. C'était pas 15 jours après être rentré au séminaire ou 15 jours avant de rentrer. Faut qu'on en ait conscience, non. 6-7 ans d'études pour nous dire, vous savez, le célibat dans lequel on vous a fait tremper, c'est pas Dieu qui le demande. C'est nous. C'est une catastrophe, ce truc-là. Et on n'a pas eu le temps de réfléchir 24 heures, il était là, l'évêque était là, le responsable était là, un professeur de théologie morale était là, il fallait le signer tout de suite. Ça serait maintenant, vous imaginez comment je réagirais. Mais quand on est jeune, et qu'on aime le Seigneur, et qu'on s'est dit, on a passé autant d'années, on veut le servir, et là, on signe, en se disant, ben, on y arrivera, ben, il courait toujours. Et donc, je m'étais rendu compte, déjà en séminaire, que les pensées impures, les souillures qui viennent dans l'âme, rien à faire. Je me rappelle, j'étais au séminaire, je prends le train à Namur, et j'étais là en train d'attendre, et il y en avait une en mini-jupe jusque-là. Vous figurez, les amis, que ça ne pouvait pas, je ne pouvais pas rester de marbre. Quand ça reste comme ça dans ma tête, pendant des mois, ça donne quoi? Le tissu est cher, je sais bien, mais quand il est si court. Les pensées impures sont gratuites. Si le tissu est cher, les pensées impures sont gratuites. Le diable les envoie, et vas-y, et ça revient, c'est comme un cinéma. Et si vous voulez, j'avais dit une fois au Seigneur, « Seigneur, je ne tiendrai jamais le coup. Ce monde impur qui vient visiter mon âme et qui combat mon amour pour toi, qui combat mon engagement pour toi, c'est impossible à résister. Seigneur, si tu pouvais, je pouvais te voir une fois, qu'une fois dans ma vie, pour avoir la force de résister à tout ça. » Et effectivement, j'étais une fois à genoux en train de prier. Je n'avais pas bu, je n'avais pas respiré, sniffé quelque chose. J'ai vu le visage du Seigneur. Je ne l'oublierai jamais. Et c'était le visage du Seigneur qui avait souffert à la croix. Jamais. Je ne me permettrai jamais d'essayer de dessiner. C'est interdit. J'ai osé demander au Seigneur une force que je n'avais pas. Devant le monde des esprits impurs qui nous travaillent et qui est très puissant, extrêmement puissant, qui peut me donner la force de résister, si ce n'est le Seigneur, qui est pur? Heureusement que j'ai été lui demander. Vous comprenez pourquoi il y a tellement de prêtres qui sont pédophiles, tellement de prêtres qui ont des copines, parfois la femme d'un de leurs meilleurs copains qui est à la maison, etc. J'en ai connu combien? Et des choses terribles, terribles, que j'ai dû dire à l'évêque, il faut qu'on change tout ça, c'est contraire à l'évangile. Oh, vous pouvez avoir une petite aventure de temps en temps, c'est pas grave. Voilà ce qu'on m'a répondu la première fois. Deuxième chose, vous pouvez choisir Luther, je les embêtais de tout. Alors, les amis, parce qu'il n'y avait pas de Christ dans les propos de l'évêque, comme réponse à ce truc-là et à ce papier qu'ils ont fait signer et que Jésus ne demandait pas de signer. Mais en attendant, moi qui croyais que c'était Jésus qui demandait le célibat, ben, il fallait que je résiste à toutes ces tendances qu'il y a en nous et qui sont poussées à l'extrême par Satan, par les convoitises de la chair aussi. Plus tard, j'étais prêtre ouvrier, j'étais à Ouvlay, je travaillais dans la construction métallique. Et je me suis trouvé confronté à un cas de sorcellerie. C'est le premier dans ma vie pour servir Dieu. Je savais par le prêtre qui m'avait conseillé dans la vie spirituelle, qui était un brave homme, qui provenait de Châtillon, Jeanne Simonet, je savais beaucoup de choses, mais je ne les avais jamais rencontrées moi-même. Et ce jour-là, je rencontre. À l'usine où je passais avec le pont roulant, Il y avait toujours deux ouvriers qui travaillaient sur les machines et qui traçaient. C'était eux, la cheville ouvrière de l'usine. C'est eux qui traçaient tout, il fallait que ça soit exact. Après, les autres découpaient, etc., assemblaient. Donc, si eux se trompaient, c'était fini. Mais il y avait des revues, des femmes nues, des tas de trucs partout. Et j'étais patient, mais un jour, au bout d'un an et demi, deux ans, je passe le pont. Je dis, vous n'en avez pas marre de vos cochonneries? Vous n'en avez pas marre de vos saletés? Je plains vos femmes quand vous rentrez. Je dis ça comme ça. Je continue mon chemin. Je repasse un peu après avec une énorme poutrelle, ou je ne sais pas, des bouteilles d'acétylène, une machine. Hein. Je tenais deux ponts roulants, parce que c'était une énorme charge. Il me dit, tu ne saurais pas t'arrêter, on a besoin de te parler. Et alors, ce qu'il y a, je dis, j'achève mon boulot, puis je viens. Parce que le chef de l'usine me regardait toujours, avec un œil jaloux, méchant, et il cherchait à me coincer. Alors, pratiquement, l'air de rien, je arrive, et puis, il dit, ben écoute, tu ne dois pas croire ce que tu vois là. On est loin du compte. C'est quoi? Je leur avais dit aussi, quand je suis passé, écoutez, il y a de la neige dehors, quand vous venez à vélo, moi je venais à vélo, je faisais 5-6 km à vélo pour aller bosser, eux ils faisaient 800 mètres, vous voyez pas la neige, les enfants qui vont sur les traîneaux et tout ça, la belle nature, ben oui on la voit, mais alors pourquoi vous avez besoin de ça là, sur les machines partout, hein, avec ça vous n'allez jamais foutre la paix à vos femmes, avec ça vous êtes complètement, alors ça les avait touchés. Il y a autre chose que ça, que la saleté, je leur dis. Alors, quand je repasse, ils me disent, écoute Jean, tu ne dois pas croire ce que... Quand moi je rentre, il s'appelait André, je rentre à 4h30, ma femme s'effondre, elle a comme ça en tenait à la gorge, elle s'effondre, elle hurle, elle hurle. J'ai une pauvre femme qui souffre tout le temps. Et... qu'est-ce que tu veux? C'est pas ce que tu crois quand je rentre. Et l'autre, le copain, dit, oui, je sais, je rentre avec lui, on voit. Alors je dis, écoutez, je sais que j'ai appris, en théologie spirituelle, qu'il y a des manifestations démoniaques. Vous avez été voir les médecins? Vous avez été voir épilepsie, tout ça? Lui, il n'y a rien. Bon, je dis, est-ce que quelqu'un parmi vous a donné des petites statuettes? A donné des objets? De loin, parents de loin ou pas. Quelqu'un qui est venu il y a 3 ans en visite ou il y a 6 mois. Oui, il y a quelqu'un qui vient tous les 2-3 ans, et une vieille tante et tout ça, on sait bien qu'elle fait des drôles de trucs, et nous a des trucs. Vous allez tirer de la maison. Et je dis, on va prier au nom de Jésus tout de suite. On va prier au nom de Jésus tout de suite. Donc, je vais à l'usine, avec ces deux hommes-là qui, hein, je leur avais dit, quand même fait des reproches, mais gentiment, ils savaient bien que je les aimais beaucoup. Nous avons prié. J'ai dit, Seigneur, si c'est Satan, je te demande, Seigneur Jésus, de l'arrêter. Manifeste-toi dans la maison d'André. Délivre cette pauvre femme et redonne la paix à ce couple, Seigneur. Et ôte toutes ces images de l'usine ici, Seigneur Jésus. Donne la paix. Donne la paix à André et à son copain Gilbert. Guéris cette femme, au nom de Jésus. Amen. Il dit Amen. Ce jour-là, depuis des années où elle avait eu des crises, elle n'en a pas eu. Ça a été fini les crises. Fini les crises. Et le lendemain, toutes les images étaient tirées. Dans l'usine. Toutes les saloperies, même dans leur armoire. Ce qu'il y a, c'est que je me suis rendu compte qu'à Aizo, un peu plus loin, Velaine, chez cette brave dame, eh bien, elle faisait des réunions, on soulevait les tables, etc. Et puis un de ses fils a voulu être chrétien. Pas de chance, sa pauvre femme. Un de ses fils a voulu être chrétien. Elle avait eu plusieurs enfants, mais il y en avait un qui était né plus tard. 18 ans, 19 ans, il voulait être chrétien. Bon. Ben, il est devenu chrétien. Et les jours qu'on a prié pour qu'il soit chrétien, qu'il donne sa vie à Jésus, ça a été fini. Cette femme n'a plus, pas pu faire, plus continuer ses réunions de sorcellerie dans la maison et jeter des sorts. Elle a dû aller le faire autre part chez un membre de son équipe, de sa fichue équipe diabolique. Ça, c'est la première fois. Mais croyez bien que pendant des nuits, Satan m'a attaqué. Satan m'attaquait. Quand on fait l'expérience de ce combat, et j'avais une retraite à Floreffe, dans cette église, vieille abbaye de Floreffe, et j'avais un ami, André-Marie, qui jouait de l'orgue, jouait très bien. Il était prêtre ouvrier, lui, à Liège. On était plusieurs prêtres ouvriers à avoir décidé de se voir ensemble là, pour passer du temps. Il y avait un internat qui était vide, c'était les vacances de Pâques, donc on voulait être ensemble pour prier. Et on se promenait, on tenait le silence pendant des heures, puis on se voyait, on étudiait la Bible. On était fort attaché à la parole de Dieu et à Jésus, ça c'est clair. Et pratiquement, au soir, il joue de l'orgue, et puis je m'assieds, et puis il s'en va, il laisse la porte un peu entrouverte, il ne ferme pas l'église à clé, et moi je suis là. Alors, toute la nuit, regardez bien cette lumière. Imaginez qu'il y a cette lumière qui commence en bas du mur, sans néon. Sans néon. Tous les murs de l'église, tout est couvert comme de neige et de lumière. Et à 6h du matin, je suis parti. J'ai fermé la porte et j'étais travaillé, parce qu'il fallait aller à l'usine. Reposé, pas fatigué. Quand vous savez que Dieu est lumière, que c'est mis dans la Bible, et que vous faites cette expérience-là, vous croyez que Dieu est ténèbre encore après pour moi ? Vous croyez que Dieu est ténèbre encore pour moi ? Dans mon ignorance, il peut être entre les deux, un peu gris-blanc. Mais quand c'est après, c'est fini ça. Et c'est pas par hasard que c'est comme ça. Parce que c'est pour moi resté un souvenir de ce que j'avais vu. Mais il n'y avait pas de courant électrique, pas d'interrupteur. Et une paix, pas de fatigue. Et je vais vous dire, au ciel, on n'est pas fatigué d'être avec Dieu, on n'est pas fatigué de le voir, on n'est pas fatigué d'être dans la lumière. Avec le Christ Jésus, tout est paix. Et quand vous voyez dans la Bible qui dit « Recevez ma paix, que la paix soit avec vous », dans tous les récits après la résurrection, « Que ma paix soit avec vous », c'est de celle-là que je veux vous parler. Vous ne l'aurez pas autre part. Vous ne l'aurez nulle part en dehors de Jésus. Ressuscité. Mais est-ce que vous avez le courage, le profond désir d'avoir un grand amour pour le Seigneur, une passion pour le Seigneur, pour qu'il vous rende victorieux sur les désirs impurs, sur les peurs, sur les craintes, sur les attaques de Satan, sur tout ce qu'on rencontre, qui est dans lequel souvent Satan a mis des pièges. Quand ce n'est pas des quatre sorcelleries comme ce truc-là, pour notre brave André et Gilbert, qui n'ont jamais parlé de ça, sauf à moi. Mais pourquoi ? Parce que tout d'un coup, j'ai poussé sur le bouton en disant « Vous n'en avez pas marre de vos cochonneries ?» Tout s'est enclenché. Tout s'est enclenché. Il a fallu que je pousse le bouton. Donc si vous allez au contact des autres, que vous aimez les autres, parce que le Seigneur vous dit de les aimer, vous, immanquablement, même sans le savoir, vous allez pousser sur des boutons. Et tout d'un coup, pouf, la boîte elle s'ouvre, et qu'est-ce qui sort ? Un petit bonhomme. Mais c'est quel genre de petit bonhomme ? La vie est pleine de surprises. Et on voit, on découvre que Satan a quand même fait la ruine de beaucoup de gens. On découvre qu'il y a des pièges dans lesquels les gens sont tombés. Et qu'est-ce que vous voulez faire ? Surtout pas jouer au caïd. Se rapprocher du Seigneur. Et demander au Seigneur d'intervenir. Se faire tout petit et demander au Seigneur d'être le très grand dans le problème de ces gens-là. Quand je suis revenu du coin, de la base de Charleroi, que je suis venu habiter dans le coin ici, il est arrivé un jour que j'étais dans ma voiture et j'avais des douleurs dans le dos, mais partout, comme si on rentrait des poignards dans la colonne. Et un jour, au soir, arrive à une réunion chez Jackie, un homme tout bossu, rempli de douleur, hein, chez Jackie, rempli de douleur, qui habitait dans un village en France. Je savais que cet homme souffrait. Je l'avais eu dans la journée. Et bien, dans cette maison-là, il y avait des démons. Quand j'y suis allé, j'ai manqué de m'endormir sur la route. J'ai dû m'arrêter et me reposer. J'ai dormi trois quarts d'heure dans l'auto, j'arrivais plus, tellement j'étais comme si on m'avait vacciné, pour que je me tue sur la route. Je me suis arrêté, j'ai prié, puis je suis arrivé là, la petite femme avait bougé un machin comme ça, cinq fois plus gros que ça, une grosse cuisinière en fonte, une petite femme, minus, maigre, une cuisinière de 300 kilos d'un bout à l'autre. Et l'autre, le monsieur, il descendait de l'escalier, avec une voix, comme si c'était des baffles pour, dans le stade à Anvers où il y a 15 000 personnes qui écoutent un chanteur. J'ai été une fois, j'avais tout qui vibrait, j'étais là-haut, Anvers, et bien c'était la même chose. Et je me suis dit, Seigneur, je suis rentré dans cette maison pour en sortir vivant, Seigneur, il faut que tu sois là. Je vais me faire avoir. Il y a trop de démons ici. Seigneur, au secours. Je ne suis pas prêt. Pour un tel combat, je ne suis pas prêt. Seigneur, au secours. Aide-moi à sortir vivant de cette maison. Quoi qu'il me pose comme question, Seigneur, protège-moi. Et si tu veux qu'un jour je combatte de telle puissance, Seigneur, prépare-moi. Mais ce n'est pas aujourd'hui, je ne suis pas prêt. Et dans la conversation, ils sont arrivés là. Quand il arrivait derrière la porte, la petite dame a dit, si tu savais qui est là, tu ne parlerais pas comme ça. Il arrivait qu'une voix normale comme vous et moi. Et pratiquement, ils avaient l'air de deux petites Saint-Denis-touches. Et ils étaient possédés de démons énormes. Et pratiquement, si vous voulez, ils m'ont demandé dans la conversation, que penses-tu de nous? C'était les démons. C'était pas eux, je le savais. Normalement, avec l'expérience maintenant, je pourrais leur répondre, leur dire. Mais ce qu'il y a, sans, pas seulement l'expérience, parce que je passe du temps avec le Seigneur avant et après. Mais ce qu'il y a, je dis, Seigneur, je ne vais pas répondre. Je demande pardon, je ne vis pas assez avec toi. Je te connais, mais je ne vis pas assez avec toi. Seigneur, je te demande pardon. Il faudrait que tu me prépares pour de tels combats, c'est impossible. Parce que je sais, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 12, les fils de Sceva, les fils d'un chef de synagogue, ils voulaient chasser les démons, hein, ils ont prié au nom de Jésus, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Les démons leur disent, à travers les gens, nous on sait qui est Paul et Jacques et Jean, mais vous, on sait bien, vous n'êtes pas avec Christ. Et ils sont sortis en lambeaux, nus et blessés, par les carreaux, par la porte et tout. Et ça, ce texte, je le connais bien, donc, il ne s'agit pas de jouer au kamikaze. Et vous voyez, par la suite, il m'est arrivé de tomber sur des gens possédés, de prier, et que les démons partaient. Alors, il y a un temps pour tout, et c'est le temps du Seigneur. Ce n'est pas un automatisme. Un chrétien n'est pas un gourou, ni un pasteur, ni personne. Le Seigneur ressuscité est puissant. Le Seigneur est grand. Et plus on se fait petit, plus il aura de la place. Plus on se fait honnête avec lui, plus il aura d'autorité dans les événements de notre vie. Et plus on pourra mieux le servir. Mais on n'est jamais à l'abri de l'orgueil et de dire « moi je ». On n'est jamais à l'abri du péché qui est en nous. Et notre ennemi, ce n'est pas Satan, c'est le péché. Il faut toujours craindre notre péché. Et je vais terminer en disant ceci. Jésus ressuscité sait qui est humble, qui hait son péché. Jésus vient au secours de celui qui a la haine du péché. Mais celui qui aime le péché, Jésus, ben oui, je suis mort pour toi sur la croix, oui, mais tu n'as pas fait ma volonté. À rire de moi, je ne t'ai pas connu. Matthieu 7, 21. À rire de moi, je ne t'ai pas connu. Tu n'as pas fait volonté de mon Père. Psaume 111. Qu'est-ce que c'est de faire la volonté de mon Père? C'est vivre avec Jésus. C'est tout simple. C'est vivre avec Jésus. Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Quand vous vous trouvez en face d'un wahhabiste ou d'un djihadiste, hein, allons, oui, on vous invite à quelque part, vous y allez. Puis quand vous écoutez les conversations, les argumentations, vous savez que vous avez en face de vous quelqu'un dans un mouvement très dur. Et puis qu'il y en a un autre à côté qui fait des convulsions, qui se roule par terre, que même l'imam a prié pour lui, etc. Et que rien n'y a fait. Et que ce bonhomme-là, il crie au secours, pasteur, est-ce que vous pouvez prier? Oui, je vais prier au nom de Jésus. Et qu'il se relève et dit, ah, c'est quand même bizarre, j'ai jamais été comme ça. Et puis il me dit, je vais vous donner de l'argent. Non, non, je ne veux pas de ton argent, Dieu est assez riche pour m'aider. Et que l'autre tourne alentour et vient avec tous des arguments. Et que, je dis ça, c'est un wahhabiste. Je connais ces mouvements très durs, je connais leur doctrine, comment ils ont étudié la Bible pour tout déformer. Comme Satan quand il va trouver Jésus dans le désert. Alors je me dis, il faut faire gaffe. Parce que par la suite, j'ai encore revu ce garçon qui avait été délivré. Eh bien, chaque fois que j'étais dans la nature tout seul, le téléphone sonnait. Tous les 5 minutes, l'autre était renseigné par Satan. On était ensemble et téléphonait. Pour l'embêter, pour nous embêter. Comment faire pour ne pas avoir un jour un poignard à la gorge ou dans le dos? Parce qu'ils savent me trouver ici. Et ce n'est pas la peine de mettre une porte fermée. Hein. Ce n'est pas une porte fermée qui me protégera. Il n'y a que le Seigneur. Tout est ouvert la nuit. Il n'y a que le Seigneur qui peut protéger contre ça. Les amis, c'est des expériences comme ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Jésus ressuscité est vivant. Jésus est puissant. Jésus a la priorité sur Satan. Il a la domination parfaite sur Satan. Un chrétien est quelqu'un qui se range à côté de son Seigneur, derrière lui, qui ne court pas devant, derrière lui, pour toutes ses convoitises de la chair, pour toutes les attaques de Satan, et surtout s'il veut le servir, encore plus derrière lui, hein, et juste derrière lui, pas à 500 mètres derrière lui. Alors, il va garder une raison saine. Parce que le problème, si on n'arrive pas à pécher, on peut devenir, on appelle ça en gourmet, maboule. C'est-à-dire que, l'air de rien, on perd la raison, on perd l'équilibre dans la tête, on attrape des confusions. On a attaqué la nuit, etc. Satan peut arriver, les maladies d'Alzheimer, pour moi, 2 fois sur 3, c'est quelque chose qui ne vient pas de la chimie. J'ai déjà souvent prié avec des gens qui font Alzheimer, c'est quand même bizarre qu'à ce moment-là, il n'y a rien. Je traiterai une fois de cette maladie-là dans une prédication, parce que j'ai trouvé des textes dans la Bible pour en parler. Mais la crainte de l'Éternel, psaume 111, verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Je crains de perdre mon amour unique, je crains de perdre mon Jésus. Je crains de perdre ma relation avec lui. Je fais tout pour être avec lui dans ça, une relation juste, bonne. Et c'est quelqu'un qui m'aime. Il m'aime. Plus que moi, je ne l'aime. Il m'aimera toujours. Il m'a aimé au point de donner sa vie pour moi. Et même quand je trahis, même quand je suis faible, même quand j'ai des pensées tordues, il m'aime. Je peux retourner vers lui. Je peux me reposer et lui confier tout. Venez à moi, vous qui ployez sous le fardeau, car je suis doux et humble de cœur. Il ne me rejette pas. Il sait aimer, lui, moi à peine. À ce moment-là, j'ai une raison saine. L'amour de Jésus me rend mon équilibre. L'amour de Jésus me rend ma raison, que j'ai toujours tendance à perdre dans ce monde de fous, déréglé par le péché. Voilà les amis ce que j'avais dit aujourd'hui. Jésus ressuscité est notre trésor, notre vie, notre chemin. Amen.